Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et si nous parlions un peu des services de cartographie et de guidage? Parce que j'en ai testé plusieurs. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, bienvenue dans Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans, comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end, telle l'aventure, je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, il y a quelques années je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier Gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'applications pour guider, pour trouver les parcours, les chemins, parce que j'ai fait des tests. Si vous avez un iPhone, vous connaissez Apple Plan, l'équivalent de Google Maps, et qui est directement intégré dans l'iPhone. Hein. Dès que vous achetez un iPhone, vous avez Plan dedans. C'est une application qui fonctionne grosso modo pas si mal que ça, mais qui a peut-être un peu de mauvaise réputation, car Apple l'a lancée bien plus tard que celle de Google, et donc elle avait pas mal de retard dans les fonctionnalités. Et finalement, moi souvent en tout cas, je finissais par remettre Google Maps sur mon téléphone. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis Google Maps. D'autant que pour nous, en fait, Apple Plan avait un gros défaut, c'est qu'elle ne faisait pas le guidage cycliste en France. Et en fait, cette fonctionnalité était présente dans l'interface, mais quand on voulait l'activer, ça marquait que c'était pas disponible. Elle était déjà activée dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne l'avait depuis avril, et les États-Unis étaient couverts depuis août 2022, ce qui est finalement assez récent quand on regarde dans l'histoire un petit peu des applications, finalement de se dire que c'est une fonctionnalité qui était présente, qu'on voyait comme ça, mais qui arrive petit à petit sur la France et petit à petit dans le monde entier. Quand j'étais parti en Bourgogne, en Beaujolais, là, il y a 15 jours, j'avais voulu tester le guidage. J'avais encore appuyé sur ce fameux bouton pour savoir s'il marchait et c'était marqué qu'il n'était pas activé. Mais en rentrant, en fait, quelques jours après mon retour, en fait, le 6 juin, Apple a activé le guidage vélo pour la France. Oui, on a ce guidage vélo. Donc, si ça fait longtemps que vous n'avez pas démarré Apple Plan, si vous allez le démarrer, vous allez peut-être avoir une mise à jour qui va vous dire que, effectivement, il a été mis à jour et que vous pouvez maintenant utiliser le guidage. Alors, le guidage existait, je le dis déjà, pour d'autres pays, hein, comme l'Allemagne. Si vous voulez faire des tests, vous pouvez tester sur l'Allemagne. Et puis, ils ont lancé donc cette nouvelle version de plan qui marche pour la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou encore Monaco. Bon, il y a d'autres pays, hein, mais je ne sais pas s'il y a des auditeurs dans ces autres pays. Donc, vous testez selon les pays. Mais en tout cas, vous avez cette fonctionnalité-là. Si vous êtes en France, Suisse, Luxembourg, Monaco, Belgique, on a cette fonctionnalité-là du guidage vélo. Et donc, qu'est-ce que ça propose? Eh bien, les itinéraires vélo, donc. Hein. C'est-à-dire que quand on marque une destination, eh bien, avant, on avait voiture, à pied ou quoi que ce soit. Et maintenant, quand on prend vélo, il nous propose vraiment des trajets vélo. Il propose des affichages des pistes cyclables, aussi les trajets trottinettes. Hein, ça me concerne pas. Et puis, en fait, c'est en train de cartographier de nouveau des villes en France, notamment. Alors, je sais pas dans les autres pays, mais en tout cas, il y a 30 villes françaises qui sont en train d'être à nouveau cartographié. Vous savez que les voitures là qui ont les caméras dessus et tout, eh bien, ils refont passer les voitures dedans pour recartographier. Bon, il faut dire que ça change beaucoup. Je sais pas comment ils font d'ailleurs sur les pistes cyclables, sur ces bandes cyclables, etc., qui évoluent, parce que ça évolue un petit peu dans tous les sens. Et puis vous savez, il y a toutes les sens interdits qu'on peut prendre en vélo. Enfin, il y a tous ces trucs là. Je sais pas exactement comment ils gèrent ça. Moi là, je suis resté plutôt en trajet en dehors de la ville et j'ai pas fait trop de l'urbain avec les tests que j'ai fait, donc je sais pas ce qu'ils m'auraient proposé si je lui ai fait prendre une route qui normalement était en sens interdit pour les voitures mais praticable en vélo. Donc j'ai fait le test, vraiment j'ai fait le test, hein, je le dis, de rouler à nouveau un peu plus pour le demander à 3 services de me faire la planification et le guidage. Donc j'ai demandé à Apple Plan, j'ai demandé à Google Maps et j'ai demandé à Komoot. Bah oui, j'ai mis Komoot hein, dans l'eau, parce que pour moi, vous savez, Komoot, hein, c'était un peu l'application type, hein, en mettant en vélo, j'ai dit je vais mettre Komoot, etc. pour le guidage, parce que ça me paraissait être l'application qui est un peu standard, hein, un petit peu utilisé par beaucoup de monde. Et donc, j'ai voulu faire un comparatif, en fait, de me dire, sur un parcours, qu'est-ce qu'il va me proposer l'un et l'autre? Et est-ce que finalement, cette nouvelle option Apple Plan, est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Est-ce que je la garde ou je la garde pas? Quand j'étais parti en Bourgogne, hein, je vous avais dit dans mon petit bilan de cette aventure-là. J'étais parti à l'aller avec Google Maps et au retour, en fait, j'avais hésité entre la cartographie Komoot, il y avait la cartographie aussi qui était proposée par celle de mon GPS, etc. Donc, on a plein de choix hein, dedans. Mais l'idée, c'est de savoir sur laquelle partir. Donc, maintenant qu'Apple Plan revient dans le truc, en fait, je me suis dit, je vais tester Apple Plan. Alors, comment j'ai fait ça, en fait? Eh bien, ça me permet de parler de mon bilan. Alors, mon bilan de la semaine dernière, j'ai roulé 83 km. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en ce moment, je fais plusieurs fois les allers-retours entre Vichy, où j'habite, et Cournon, à côté de Clermont-Ferrand, où habite ma fille. Donc, ce que je faisais jusqu'à maintenant, la majorité des cas, sauf la fois où j'avais fait Cournon-Vichy en vélo le jour de mon déménagement, je prenais le train, en fait. Donc, je prenais le vélo, j'allais jusqu'à la gare en vélo, ensuite, je le mettais dans le train. Et puis ensuite, quand j'arrivais à la gare, à Clermont, il me restait 13, 14, 15 kilomètres. Ça dépendait des petites variations pour aller, ou même j'ai des chemins beaucoup plus courts que ça, pour aller voir ma fille à Cournon. Donc c'est tout, souvent ce que je faisais en fait. Et donc j'avais un parcours d'ailleurs dans Clermont. J'ai un parcours qui était sur lequel j'ai essayé de battre mes records, etc. J'ai quelques variations. Des nouvelles pistes cyclables d'ailleurs qui sont en train d'être mises en place. Donc ça c'était mon truc habituel. Maintenant j'ai décidé qu'en fait, comme c'est l'été, qu'il y a le Gravelman Paris-Deauville à préparer, etc., et que j'ai besoin aussi de foncier pour préparer d'autres échéances sportives, bon, bah, si je peux le faire, si j'ai le temps, et si la météo le permet, je vais faire ces allers-retours plutôt en vélo. Donc la semaine dernière, j'ai fait 83 km. Donc j'ai fait le trajet, en fait. Hein, un jour, j'ai fait le trajet. Et puis j'ai fait le retour. En fait, je suis resté plusieurs jours là-bas, donc j'ai fait le retour ce lundi. Et puis j'ai aussi fait un aller-retour ce mercredi. Donc sur la journée, j'ai fait l'aller-retour, ce qui me faisait en fait une journée à 120 km. Et donc j'en ai profité pour tester les applications, pour voir un petit peu quel parcours il me propose. Est-ce qu'il y en a un qui me propose un parcours plus sympa, un autre plus rapide, etc. Donc j'ai fait les tests comme ça sur ce parcours que je commence par connaître bien mieux qu'avant. Alors bien sûr, il y a eu des petites variations, il y a des petits changements. Lundi, j'ai pris un gros orage par la figure qui m'a obligé à changer un petit peu de voie parce que je voyais les gros nuages là sur le côté. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas les éviter? Et donc c'est là aussi où j'ai demandé aux applications de me dire, j'ai l'impression qu'en passant un petit peu plus par l'ouest, j'ai l'impression que j'ai évité l'orage. Bon, non, j'ai pas évité l'orage. Là, j'aurais dû sortir les applications météo, vous savez, avec les nuages et tout, qui montrent où est-ce qu'était l'orage, etc. J'étais trempé. Mais bon, et ça m'a permis de tester aussi en condition, de voir un petit peu là où il me semblait qu'il y avait les nuages qui étaient de moins noirs, moins menaçants. Il y a un moment, j'étais sur une piste hein, comme ça. Il y avait d'un côté, c'était très menaçant, de l'autre côté, c'était pas menaçant du tout. Je me suis dit, je vais essayer d'aller vers le moins menaçant. Bon, je me suis planté quand même. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de tester, de voir une replanification en cours, etc. et de voir quelques avantages des applications. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti de mon test? Disons-le déjà, le service d'Apple et celui de Google, hein, Apple Plan et Google Maps, sont quand même assez proches. Franchement, ils sont assez proches. Au niveau ergonomie, etc., on est sur deux applications qui se ressemblent beaucoup. Franchement, si vous avez un iPhone, vous serez pas dépaysé. Bien sûr, là, avec cette histoire de plan, d'Apple Plan, j'élimine tous ceux qui sont sur Android. Désolé, mais voilà, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous avez Google Maps. Enfin, sur l'ergonomie, franchement, on est à peu près dans des ergonomies qui sont semblables. Les deux proposent plusieurs parcours. Ça se base sur les pistes cyclables, les bandes cyclables, les routes accessibles. Ça indique les kilomètres, le temps, la pente, les distances de côte, les distances de descente. Si le trafic est dense, le pourcentage de trafic dense aussi sur les routes, etc. S'il faudra porter le vélo, il y a des endroits, ça va indiquer, attention, ici il y a des escaliers, ici vous n'avez pas le droit de passer, etc. Voilà. On peut demander à Apple d'éviter les collines et les routes trop fréquentées, en fait, quand on indique la destination. Il y a une petite coche, en fait, il est marqué éviter. Et on peut donc éviter les collines et les routes trop fréquentées. Moi, sur le trajet que j'ai, éviter les collines, c'est impossible. Parce que c'est un trajet, alors selon les variations, j'ai entre 400 et 600 mètres de dénivelé, mais je pourrais faire plus. Hein. Je pourrais monter à 800, voire 900 de dénivelé si je me donnais la peine. Ce que j'ai pas fait là sur ces parcours-là, parce que j'avais un temps qui était un peu imparti, si j'avais plus de temps, je pourrais faire des variations. Dès le départ, je pourrais partir par des petites montagnes, et puis par l'arrivée, je pourrais finir par de la grosse pente. Ça, je pourrais faire. Mais en fait, Apple propose en fait hein, tout simplement de les éviter, de considérer qu'on peut les éviter, ce qui n'arrive pas à faire hein, vraiment sur mon parcours, mais peut-être que sur d'autres parcours il pourrait arriver à le faire. En tout cas, ce qu'il indique, ce sont les pentes avec une petite icône. Quand on regarde sur les résultats, il montre les. En fait, Apple et Google montrent plusieurs parcours. Hein, on peut sélectionner les parcours. Et c'est vrai que dès la carte, en fait, ce que fait Apple, c'est qu'ils indiquent où est-ce qu'il y a les pentes, où est-ce qu'elles situent les pentes, au début, à la fin, etc. Donc, on voit une petite icône spécifiquement pour les reconnaître. On va dire qu'en fait, c'est pas mal, mais que la comparaison de la pente des différents parcours est plus facile à visualiser avec Maps, parce qu'il y a un truc qui est bien sur Google Maps, c'est qu'en fait, dessous, en fait, une fois qu'on a par exemple, il propose trois parcours. Sur les trois parcours, en fait, il va mettre les courbes de pente, il va les mettre, les superposer en fait de couleurs différentes en fonction du choix du parcours, et donc on arrive mieux à visualiser finalement globalement où situent les pentes, si les pentes au début elles sont pareilles ou pas, si elles varient, etc., où ça situe. On arrive mieux à les comparer sur Apple. En fait, chaque parcours a sa propre ligne de pente, on va dire, hein, comme ça, qui est faite. Donc on voit le profil global, mais on le compare un petit peu moins. Le point le plus surprenant au départ, c'est que les applications ne proposent pas les mêmes parcours. Il a vraiment les mêmes parcours. Il y a des grosses variations. Google m'a proposé des parcours plus rapides, de 52 à 57 km, et puis avec des temps plus rapides aussi. Apple me propose des parcours qui vont, lui, de 54 à 67 km. Et Komoot, lui, ne me propose qu'un seul parcours, 52 km. Donc en fait, Google me propose trois parcours, je crois. Apple m'a proposé aussi trois parcours, à peu près. Ils ont un point commun, en fait, entre ce que propose Google et Apple. C'est qu'il y a le point de passage par une même commune, en fait. Hein, toujours la même commune en point de passage. Alors que moi, en connaissant le parcours, je sais que je peux l'éviter aussi, puisque d'ailleurs, je l'ai demandé d'éviter cette commune-là. Pourquoi je lui ai demandé d'éviter cette commune-là? Parce qu'il y a une partie, je vous en reparlerai après, que j'aime pas trop. En fait, il y a une partie que je n'aime pas trop. Donc, il y a des endroits, moi, je dis, écoute, je vais essayer aussi de faire un parcours en évitant cette commune-là. Donc, on est capable de le faire. C'est juste que par défaut, en fait, il voulait pas me permettre de l'éviter. Voilà. Donc, il les faisait. Donc, il faisait des variations avant, il faisait des variations après. Donc, en fait, on voit les cartes qui bougent un petit peu. Mais, sur le coup, en fait, les variations me faisaient toujours passer par la même commune. Komoot, lui, donc, il me propose qu'un seul parcours. Cependant, en fait, il est un peu plus précis quand on demande le parcours, parce qu'on peut demander de la route, VTT, gravel. Alors, franchement, sur ce parcours-là, quand je lui ai demandé le passage VTT, en me disant, parce que vous verrez, il y a une subtilité, je lui ai dit, tiens, il y a un endroit, je me dis, peut-être que si je lui demande du VTT plutôt que de la route ou du gravel, qu'est-ce qu'il va me faire? Il m'a rajouté 2 km. 2 km, en fait, il y a un endroit où effectivement il me prend une piste, on va dire, il me prend une piste qui permet, enfin c'est un chemin agricole, on va dire, un gros chemin agricole. Mais ça, je vais vous en reparler des chemins agricoles, parce que là il y a un truc qui me turlupine un petit peu. Mais en tout cas, il m'a proposé un endroit, un passage, d'ailleurs que j'ai testé, hein, qui passe très très bien en gravel, et qui allonge un tout petit peu, mais qui évite de la route, voilà. Mais c'est la seule variation. Et puis Komoot, lui, il est aussi plus précis sur d'autres choses, c'est qu'il indique les types de voies, vous savez, chemin, route, piste cyclable, nationale, les pourcentages de l'un ou de l'autre, les surfaces, si c'est de la pierre, de l'asphalte ou si c'est inconnu, la vitesse moyenne qu'on va avoir. Voilà, il indique un temps. Alors bien sûr, Komoot joue sur la capacité à modifier le parcours plus facilement, pour ajouter des étapes beaucoup plus facilement, directement dans l'appli, ce qui est plus compliqué dans les autres services, mais on peut le faire. Mais c'est vrai que Komoot sur la planification est plus simple pour le faire. Hein, vraiment, on va dire que dès le départ, on arrive à le faire plus facilement. C'est beaucoup plus simple de le faire. Ensuite, c'est vrai que les trois applications, elles indiquent aussi le temps, l'horaire d'arrivée. Alors, comme je le disais, en fait, c'est là où il y a des subtilités, bien sûr, parce que entre le parcours à 52 proposé par Google et le parcours à 67 km proposé par Apple Maps, forcément, les temps sont différents. Mais même sur les parcours qui sont à peu près semblables en distance, le temps de parcours est vraiment très différent. Vraiment très différent. En fait, j'ai trouvé que Google était donnait des temps un peu plus courts, un peu plus sportifs. Mais qui s'explique aussi parce qu'il y a des endroits où il fait des petits raccourcis, des chemins plus courts. Et puis Apple donne des temps qui m'ont semblé un peu longs. Hein. Quand j'ai regardé un petit peu le truc, j'ai dit, tiens, c'est un petit peu long. Notamment là, il y a sur un de mes trajets, je me suis dit, tiens, je vais vraiment regarder le temps qui m'annonce, etc. Et en fait, à la fin, je mets Ah, je mets bien 30 minutes de moins et encore j'ai fait une pause. Donc par rapport à la prévision que donnait l'application Apple, je suis allé déjà plus vite. Et en fait, alors c'est sûr qu'en roulant, je voyais le temps qui descendait. Mais j'ai 30 minutes de moins, mais je pense qu'à un moment donné, j'étais même à 40 minutes de moins. Si j'enlève la pause, je pense que je suis pas très loin de mettre 45 minutes de moins qu'un des trajets qu'il m'avait annoncé. Donc il avait été vraiment très généreux, ou alors il pensait pas que je roulais comme ça. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ce temps de trajet s'adapte. Peut-être que les trajets de Google Maps sont adaptés par rapport au fait que j'ai déjà utilisé Google Maps sur d'autres guidages. Pas impossible. Peut-être qu'il a un peu mémorisé un peu ce que je fais. Et comme le service de Apple est tout neuf, peut-être qu'il a pas encore mémorisé tout à fait à quelle vitesse je roule, hein, sur mes moyennes à quelle vitesse je roule. Voilà, je sais pas. Ou alors est-ce qu'il se base sur une vitesse à peu près moyenne, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que les parcours, je les ai fait entre 21, 22, 23 de moyenne, même il y en a un que j'ai fait. Le parcours qui était le plus route. Voilà, est-ce qu'il va en tenir compte les prochaines fois? Faudrait que j'en fasse des tests, voir un petit peu ce qu'il m'annonce. Mais ce matin, même avant d'enregistrer, là, j'ai refait le test. J'ai re-regardé à nouveau. Le temps annoncé par Apple reste beaucoup, beaucoup plus large que celui de Google. Alors bien sûr, sur le parcours 67, j'en parle même pas. Hein. Là, c'est vraiment logique. Il rajoute 15 bornes entre par rapport au parcours le plus court de Google. Mais même sur les parcours qui ont une distance à peu près similaire, il y a vraiment une grosse variation. Ensuite, Komoot, lui, m'a donné en fait un temps. Et vous savez qu'il varie sur la condition physique. Là, moi, je suis très sceptique en fait sur cette fonctionnalité-là parce que je vois pas trop comment elle fonctionne. Mis à part que ça fait varier que le temps. En fait, ça fait pas varier le parcours. J'ai regardé, j'ai fait des variations, etc. Sur tous les parcours que j'ai fait, à chaque fois que j'ai voulu jouer sur l'indicateur condition physique, finalement, il fait varier le temps, mais il a pas fait varier le parcours. On pourrait dire que en faisant varier ce fameux indicateur, il pourrait, il y a des endroits, justement éviter les collines ou mettre des chemins ou des trucs qui roulent un peu plus ou quoi que ce soit. En fait, la distance, rien ne change sauf le temps. Et donc, il me parle en mode débutant de 5h02 et en mode pro 2h10 pour un parcours. Donc, il ne varie pas en temps, distance, en parcours, etc. Voilà. Donc, mode pro, c'est un peu rapide pour moi. Hein. Surtout que lui, il me propose un parcours qui fait du 52 km. Donc, ça fait du 25 à l'heure, hein, on va dire, à peu près, sur le fer. Moi, je n'y suis pas, en tout cas, sur le parcours qu'il propose. Mais, en tout cas, voilà, la variation est là-dedans. Ensuite, temps, horaire à arriver, etc. On est là-dedans. Maintenant, le guidage, comment ça marche? Ça fonctionne à peu près de la même manière. Hein. Soyons honnêtes, il n'y a pas des grosses différences. Il y a un truc qui est pas mal, notamment parce que je l'ai vraiment sur Google, c'est que même vous pouvez éteindre l'écran du téléphone, il détecte en arrière-plan, il remet un petit message en disant « attention, il va falloir tourner, etc. » Vous pouvez couper les indications sonores, etc. Vous avez la carte qui s'affiche, vous avez des petites icônes pour montrer où vous êtes, s'il faut tourner à droite, s'il faut tourner à gauche, ça montre bien le parcours. Chez Apple, il y a un truc que je trouve qui est moins bien fait, ou en tout cas qui est... Et je l'avais déjà trouvé en voiture, c'est que les changements de direction sont annoncés trop tôt pour moi, surtout dans l'audio. À un moment donné, il me dit « dans 3,5 km, on rond-point, tourner à droite ». Mais 3,5 km, alors 3,5 km... j'y suis pas avant, 5-10 minutes. Enfin, là où c'était, en plus, il y avait une montée. Donc, je roulais qu'à 9 à l'heure dans une montée bien raide. Il me dit, dans 3,5 km, au rond-point, tourner à droite. J'ai dit, écoute, mon coco, j'ai le temps d'y être. Donc, tu me la remettras. Donc, effectivement, il m'a remis l'indication. Mais en fait, j'ai trouvé que souvent, il y avait un peu trop de messages. Je me suis dit, tiens, si par exemple vous voulez écouter un truc en même temps, genre mettre un podcast, etc., parce que certains peut-être écoutent des podcasts ou de la musique en roulant, je me suis dit, ça va être un peu pénible parce qu'en plein milieu il met ce truc là et tout en plein milieu. Je me suis dit, ça fait un petit peu loin par rapport au repérage pour le garder en tête, etc. C'est bien qu'il prévienne, mais il pourrait prévenir un petit peu plus. Alors après, bien sûr, il prévient au moment de tourner, etc. Mais je trouve que le guidage de chez Google, en fait, est un peu plus pratique au moment où vraiment il dit tourner, quand ça va être le moment de tourner, etc. Voilà, j'ai trouvé que le guidage de chez Google est meilleur. Le guidage de Komoot, rien à dire. Il m'amenait à chaque fois au bon point, etc. Enfin voilà, là-dessus, il n'y a pas de pour moi, là, il n'y a pas de grande différence. Mais en fait, la vraie grande différence, c'est pas sur l'audio, c'est pas sur la carte, comment s'affiche la carte, les fonctionnalités, retrouver où on est ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, c'est sur le choix du chemin, en fait, qui est vraiment différent. Et là, je l'avais dit déjà, hein, sur le bilan de mon périple quand j'étais allé en Bourgogne, pour rejoindre l'ami Armano, là, sur son défi Agrippa. C'est que Google, en fait, c'est un petit malin. Enfin, en fait, c'est vraiment un petit malin. Et parfois, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire couper par des chemins pour visiter des portions de route. Par exemple, hier encore, à un moment donné, j'ai fait une petite variation, donc j'ai demandé à Google une petite évolution. Il y a un moment donné, il me fait quitter la route, il me fait prendre un chemin, puis un autre bout de chemin, pour éviter, en fait, la route faisait 2-3 virages. Donc, en fait, il m'a fait couper, tout simplement, les virages. Par la partie chemin. Donc c'est pas mal en soi, sauf que par moment il amène sur des drôles de chemins. Alors hier c'était un chemin agricole au départ salé, après c'était un chemin agricole mais avec beaucoup d'herbes salées un peu moins. Mais quand j'étais allé en Bourgogne, il m'avait mis sur un moment donné sur un truc où il fallait carrément porter le vélo et où il y a eu d'autres chemins aussi où qui n'étaient pas entretenus. Donc là, ils sont marqués techniquement, ils sont des chemins qui existent, ils existent. Mais parfois, ils sont pas si praticables que ça. Et Google, en fait, elle amène plusieurs fois là-dedans. Alors, en gravel, c'est pas un problème. Franchement, donc une fois, j'ai dû porter le vélo. Mais c'est pas un problème. En vélo de route, il y a des endroits par où il m'a fait passer où je pense pas vous passer en vélo de route. Et c'est là où, en fait, où il y a un truc qui est un peu dommage. C'est que quand on fait la carto, il me propose pas de savoir si on est en vélo de route ou quoi que ce soit. Autant qu'Omout le demande. Et il demande si on est en VAE, si on est en VTT, si on est en gravel, etc. Même si moi, sur le parcours, j'ai pas vu un parcours qui évoluait beaucoup, mais en tout cas, le parcours évolue beaucoup et évolue un petit peu. Et pourquoi, en fait, il évolue pas beaucoup? Ben, en fait, c'est parce qu'il y a une bizarrerie, en fait. Je trouve qu'il y a des bizarreries dans ces applications-là. Et je vais vous expliquer ça. Déjà, Apple, le constat, c'est qu'il me fait passer par plus de petites routes. Et ça, c'est pas une bizarrerie, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai compris pourquoi il m'a fait faire un parcours 67 km, c'est qu'on va dire, il m'a fait passer par des petites, vous savez ce qu'on appellerait donc il y a les départementales, mais maintenant les départementales, il y a des nationales qui ont été converties en départementales, donc des fois c'est des grandes routes, mais en fait il y a des choses qui ressemblent plutôt à des, on va dire des chemins communaux, mais vous savez qui sont en asphalte, etc. Donc il y a des petites routes, des petits trucs comme ça, etc. qui sont plutôt sympas, et il y a des endroits vraiment, j'ai dit tiens, il fait passer par un petit peu le truc touristique, hein, les 67 km. Mais pas, il va pas jusqu'au bout de la logique touristique non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il me fait passer un endroit et il y a un kilomètre, il y avait un château à voir. Il m'a pas fait passer par le château. Donc il est pas touristique non plus. C'est-à-dire que il m'a pas, c'est comme, j'avais été très surpris par Google, par exemple, sur l'application quand j'étais allé en Bourgogne. À un moment donné, il me fait prendre les canaux et ça, je l'avais remercié de me faire prendre. Le chemin qu'il me recommandait était le chemin le plus long. Mais c'était le chemin qu'il recommandait, parce que ça, c'est le grand truc de chez Google, c'est qu'en fait, il recommande un chemin, il va dire entre les deux chemins, il va dire, je vous recommande plutôt celui-ci que celui-là. J'avais été surpris en Bourgogne, il m'a dit, il y a un chemin, il me recommande le chemin qui est le plus long. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il me faisait passer par le canal et par un canal latéral de la Loire et donc du plat et tout. Mais quand on arrive vers la commune, et ben en fait, il fait contourner, il fait prendre le contournement, il fait pas passer par l'intérieur des villages. Et en fait, Apple fait pareil. Grosso modo, en fait, il y a des endroits où Apple, si je l'écoutais, il me faisait. Alors, oui, parce que des fois, je l'ai pas écouté. Il y a un moment donné, par exemple, il y a un village, il me fait passer par la petite route qui contourne le village. Alors que, en passant dans le village, bon, bah, si, par exemple, j'avais voulu m'arrêter, prendre de l'eau, prendre quoi que ce soit, il faut que je dise, bah, je vais passer par le village. Et, donc, il y a des endroits où Apple le fait. Par exemple, hier, il y a un endroit, Google aussi me l'a fait faire, il y a un endroit, en fait, il y a une commune, ben, au lieu de me laisser sur la route qui contourne et qui circule un peu, il me fait passer plutôt par le centre de la commune, qui circule un peu moins, puis il y a une petite route, etc. Mais souvent, en fait, il fait les contournements. Donc, si vous voulez du tourisme, bon, bah, c'est moins touristique. Mais la bizarrerie, elle est pas là, en fait. La vraie bizarrerie, c'est qu'il y a aucun des trois services ne m'a proposé un passage par un chemin agricole qui est très large et qui évite une route bien fréquentée. Et là, je vous explique le truc. Il y a un endroit, alors, pour ceux qui connaissent, c'est entre Maringue et Josse. Il y a une grande route avec la grande ligne droite, etc. Officiellement, en fait, il y a une zone cyclable sur cette route. Officiellement, je dis. Elle est bien là, en fait, c'est de la bande cyclable, c'est-à-dire qu'il y a juste une bande blanche. quand vous passez dessus, il y a souvent des vélos et tout. Mais quand on est en gravel, en fait, quand on tourne la tête un petit peu, on se rend compte que sur le côté, il y a une voie agricole. Une voie agricole qui fait... Elle est large, hein. Elle fait 4 mètres, facile, 3-4 mètres et tout. J'ai même demandé à quelqu'un qui était dans le coin, je lui dis, mais tu sais pourquoi elle est aussi large et tout? Il me dit, bah, je me demande si à un endroit, c'était pas le contournement de la commune qui devait passer par là, s'il n'avait pas fait une voie un peu plus large, etc., pour faire un contournement de la commune. Donc, c'est une voie qui est large, alors qui est un peu caillasse, etc., et tout, mais en gravel qui passe très très bien, vous la passerez très bien en VTT. Même Komoot, quand je lui propose le passage VTT, ne la fait pas prendre. Alors, pourquoi il la fait pas prendre? Est-ce que c'est une voie privée? Elle est pas marquée privée ou quoi que ce soit. Elle fait éviter toute la grande route qui est super pénible. Elle fait même éviter certains virages. Alors il y a des endroits, elle fait tomber dans un virage. Mais si on se débrouille un petit peu, on reprend un autre chemin agricole, puis encore un autre chemin agricole. Et en prenant par un chemin agricole, et puis à un moment en tombant dans une petite route, on arrive à éviter toute une grande portion de route qui circule beaucoup. Qui est pas très agréable, surtout si vous avez du vent en pleine face. Donc elle est pas très agréable, elle circule beaucoup, il y a des camions, il y a beaucoup de voitures qui passent, etc. Ça roule vite dessus, surtout depuis que nos départements ont eu la grande idée de remettre la vitesse à 80 sur ces routes-là, alors que c'était bien, ou à 90, je veux dire, même pas à 80, de les repasser à 90 au lieu de les laisser à 80, hein, voilà. Donc là, c'est des portions même, il y a même pas de portions, il y a une portion à 70, mais il y a beaucoup de portions 80 puis 90. Donc ça roule quand même beaucoup, surtout que les automobiles sont pas connus pour respecter systématiquement le 90. Donc il y a des camions, etc. Et à côté de ça, donc il y a ce chemin qui permet en fait d'éviter tout ça. Et ben aucun des trois services ne me propose ce passage-là. Pourtant, je le répète, hein, Google, très malin, il me fait passer par des petits chemins, par des petits trucs, par des trucs où il y a de l'herbe, etc. Mais ce chemin-là, il me le fait pas passer. Alors, bien sûr, quand je change volontairement de parcours, il y a un moment donné, ils se rendent compte quand même que c'est le meilleur moyen pour passer. Enfin, ils se rendent compte. Pas tous. Hein. En fait, Google a fini par me le proposer un jour, mais d'autres me le proposent pas forcément. Pourquoi? Ça, c'est la grande bizarrerie. Je ne sais pas. Il y a une histoire là-dedans. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je le prends systématiquement dans un sens ou dans l'autre. Et puis, en fait, maintenant, j'ai des petites variations. Il y a même à un moment, il y a une variation où je sais qu'en tournant à droite, je vais prendre ce chemin-là. Et puis, si je vais tout droit, j'ai une petite route, là, une espèce de route où deux voitures se croisent à peine, mais qui est un asphalte, alors qui est pas de super qualité, mais qui sillonne comme ça à travers les champs, etc., qui permet de voir les communes et qui évite toutes les grandes routes, vraiment, qui évite toutes les grandes routes et qui permet, alors, qui est pas le plus court, mais qui au niveau côté agréable est quand même beaucoup plus agréable, il faut le dire. Donc voilà, c'est ça la bizarrerie. Pourquoi ce passage-là? Alors, c'est sûr que quand on passe souvent dessus, on se dit, ben, moi, je le sais. Mais Komoot m'avait déjà fait le coup parce que sur un autre parcours que j'avais fait une fois, je m'étais retrouvé à une intersection, à un endroit, avec un chemin que je connaissais en me disant, je sais que ce chemin me permet de couper et me permet de récupérer ensuite des petites routes qui sont sympas et qui évitent la grande route. Pourquoi est-ce que Komoot me laisse sur la grande route? Souvent, en fait, j'ai remarqué ce truc-là, c'est que lui me fait laisser sur la grande route. Chez Apple, il aurait tendance à me faire prendre plutôt les petites routes. Et chez Google, il aurait plutôt une tendance à faire prendre la petite route plus les chemins, vraiment les chemins. Donc voilà, c'est des philosophies, des calculs, des méthodes de calcul ou je sais pas quoi, mais qui explique aussi pourquoi, finalement, sur un même point de départ, un même point de destination, on arrive à avoir jusqu'à 15 km d'écart entre les parcours. Et même pourquoi, finalement, chez Google, il y a un parcours qui est beaucoup plus direct. Pourquoi? Parce que finalement, alors, beaucoup plus direct, il y a 2 km de moins, bah parce que tout simplement, il y a des endroits où ils coupent les virages en prenant par des chemins agricoles, par des chemins herbeux, par des petits singles et tout. Même il y a un moment, un petit single, etc., qui fait passer. En fait, ils coupent. Voilà. Ils considèrent qu'à un moment donné, ils peuvent faire des coupes. Bon. Après, la bizarrerie, pourquoi ce grand chemin ne le fait pas passer, ça, je n'en sais rien. Est-ce que parce qu'au bout, il y a une entreprise, mais pourtant, c'est quand même un chemin, on peut passer, il n'y a pas de barrière privée ou quoi que ce soit, je n'en sais rien du tout là-dessus. C'est à creuser. Maintenant, après, pour le reste, hein, on va dire, sur l'ergonomie, Apple et Google, franchement, ils ont beaucoup bossé l'ergonomie. C'est une ergonomie qui est vraiment assez proche. Alors, quelqu'un m'avait envoyé un message en parlant d'autres services en me disant, bah tiens, ça ressemble beaucoup aussi à ce que font d'autres applications. Effectivement, alors, j'ai pas testé toutes les applications. Franchement, on va dire que l'ergonomie de Apple Plan, Google Maps, franchement, à quelques trucs près, c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que, il y a un truc quand même, c'est que sur le, et c'est là où il y a une grosse différence avec Komoot, c'est que Komoot est plus rudimentaire sur l'interface. Franchement, c'est beaucoup plus rudimentaire sur l'interface. Certaines options sont plus difficiles d'accès. Je trouve sur Komoot, il y a des trucs qui sont un peu difficiles sur la compréhension, etc. Il y a quelques boutons qui seront à faire évoluer. Mais en fait, Komoot permet plus facilement de modifier le parcours. Alors, vraiment, là, il y a un truc, c'est que sur Google Maps, on peut modifier le parcours directement sur le téléphone. Alors, bien sûr, ensuite, vous savez, ces services-là, ils ont aussi les services en ligne sur application, sur les, comment ça s'appelle, sur navigateur classique, etc., où il y a des options qui sont des fois plus faciles à accéder, notamment sur Google Maps. Mais en fait, sur Google Maps, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez facilement ajouter une option avec des étapes, etc. C'est juste qu'en fait, il faut le savoir, en fait, c'est qu'il faut suffit de cliquer sur la commune où on passe en disant je veux ajouter au parcours. Voilà, tout simplement. Et donc là, il va recalculer, il va garder les premiers parcours et puis il va rajouter des parcours par cette option-là. Donc, par exemple, moi, sur mon parcours, je dis je veux passer par telle commune. Il m'a rajouté des options et au final, je me retrouvais avec 5 parcours potentiels pour faire la même distance. Enfin, le même chemin de A à Z avec plusieurs variations. Il m'a proposé jusqu'à 5 variations. Donc, comme ça, c'est assez facile. Sur Apple Plan, il y a un gros truc. Alors là, je sais pas. C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, vous pouvez demander à ajouter des étapes. C'est-à-dire que vous mettez le point de départ et le point de destination, point d'arrivée, point de départ. Et quand vous êtes en mode voiture, en fait, il vous propose d'ajouter des étapes. Et quand vous passez en mode vélo, les étapes n'existent pas. Et ensuite, une fois que vous avez lancé un petit peu quand vous êtes déjà quand ils affichent la cartographie, le fait d'appuyer sur une commune ou quoi que ce soit, chez moi en tout cas, n'a pas permis d'ajouter une étape. Donc, on va dire que sur ce plan-là, en fait, Google Maps a un petit avantage, c'est que on peut modifier les étapes plus facilement en disant tiens, je veux ajouter cette étape-là, etc. On peut le faire plus facilement. Komoot est celui qui est le plus pensé là-dedans, hein, vraiment le plus pensé là-dedans, où on peut vraiment mettre les étapes, etc. Même si l'ergonomie, pour moi, hein, sur certains aspects, c'est pas très simple. Et puis alors, il faut le dire aussi, c'est que sur Komoot, moi, il y a des choses que je n'arrive pas à cartographier. Il y a des endroits où je connais, je vais demander de me faire des boucles, etc. Impossible de cartographier tel que je voudrais le faire. Il y a des endroits, il refuse que je passe par là. Enfin voilà. Ou alors, il veut pas calculer la boucle de telle ou telle manière. Il n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il n'en fait qu'à sa tête. Bref. Maintenant, il reste un point quand même il y a deux points qui sont importants. Déjà, le point, c'est la batterie. Et là, c'est le gros souci quand même, faut le dire. C'est que ça pompe vraiment beaucoup de batterie. J'ai même trouvé qu'Apple Plan était plus gourmand, hein. Alors qu'on pourrait se dire, c'est une application qui est directement intégrée, qui est faite par Apple, qui est dans le système, etc. et tout. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plus gourmande. Quand j'ai vu comment la batterie commençait à tirer très rapidement dès les premiers kilomètres, j'ai dit, tiens, c'est quand même étrange. Alors au début, je trouvais que ça tirait pas beaucoup. Et puis rapidement, je trouvais que ça tirait. J'avais trouvé que Google Maps était un poil plus économe. Komoot, pas vraiment de différence par rapport à j'ai pas fait des calculs de batterie exactement pour savoir où on était. Mais j'ai trouvé qu'Apple Plan était un poil plus gourmand sur la navigation. Peut-être que c'est aussi le fait de pouvoir éteindre l'écran aussi sur Google Maps, peut-être un peu économisé, je sais pas. Globalement, on va dire que si vous voulez tenir une journée, faire de la navigation complète avec, faut des batteries complémentaires. C'était une question d'ailleurs qui a été posée à Céline Uric sur Gravelman, hein, où Céline Uric qui dit « Ne vous amusez pas à faire la navigation avec les applications, avec votre téléphone ou quoi que ce soit, parce que vous tiendrez pas la distance, vous tiendrez pas la journée complète, etc. » Et c'est vrai que là, vraiment, même, c'est un parcours qui est pas long, hein, parce que moi, j'ai mis entre 2h30 et 3h, hein, selon les variations que j'ai faites. Il y a, avec une des applications, quand je suis arrivé au bout, il me restait plus que 20 ou 30%, en fait, alors que j'avais roulé que 3h, finalement. Et donc, ça avait pompé vraiment très, 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 très fort la batterie. Alors que, avec un GPS, vous allez tenir plus de la journée, 24h, etc., dessus, donc sans aucun problème. Si vous avez même mon Brighton, qui est pas le GPS du haut de gamme, il tient très largement, beaucoup plus longtemps que ça, avec y compris le GPS, la carte activée, etc. Donc, si vous voulez tenir la journée avec, il faut des batteries. Par contre, je trouve que c'est un gros avantage, c'est que c'est activé à tout moment et que c'est assez pratique. Maintenant, il y a aussi un truc de prix qui est important. Bah, il faut le dire, hein, c'est que Apple et Google sont gratuits. Bah oui, les deux applications sont totalement gratuites. Bah, ils se financent par autre chose, hein. Apple, c'est un service qui est intégré, on va dire, dans l'écosystème Apple. Google, bah, ils vendent de la pub dessus, hein, donc c'est intérêt, plutôt intérêt à l'utiliser. Komoot, lui, est payant. Premium, pour certaines fonctionnalités, c'est 59€ par an. Alors, notamment, il y a le live tracking, il y a le planification sur plusieurs étapes, etc. Et puis, il y a aussi, vous avez d'autres options, c'est d'acheter les, il faut acheter les cartes. Les packs de cartes. Alors c'est un achat unique parce qu'il y a la version premium de Komoot qui est payante en abonnement. Par contre les cartes, c'est de l'achat unique qui va de 2,99€ pour une région à 7,99€ pour multi-région et 29,99€ pour le monde entier. Le choix le plus rentable à long terme, c'est le monde entier. Faut le dire, hein, si vous voyagez un peu à droite à gauche, vous avez vite fait de dépasser les 29,99€ à mon avis, parce que en plus une région Komoot n'est pas une région. Non, c'est pas une région. Par exemple, un département. J'ai fait un test. Hein, si vous allez en Haute-Loire, le département complet de la Haute-Loire est un pack multi-région, donc il coûte 7,99€. Donc même si vous prenez l'Auvergne avec ses 4 départements, que vous voulez faire le tour de l'Auvergne avec ses 4 départements, eh ben vous allez vite fait parce que ça vous fait, vous voyez, il y a 4 départements, 7,99€. Les 4 départements, si vous faites la multiplication, bah vous aurez fait moins cher d'acheter directement le monde entier. Voilà, c'est le constat. Alors, c'est pratique si vous voulez acheter, si vous restez dans une ville, autour d'une ville, etc., où le pack à 2,99€ est pas cher, assez pratique. Par contre, dès que vous savez que vous voulez voyager à droite à gauche, dès que vous voulez voyager, comme moi par exemple, je suis en train de prévoir, de dire, ah, tiens, je vais voir la mer ou l'océan ou quoi que ce soit, je sais que forcément, le pack, c'est le pack monde qui correspond, parce que ça va me faire traverser plusieurs régions, déjà administratives. Donc je ne sais pas combien de régions, de départements différents. Et le simple fait de couper plusieurs départements déjà aurait dépassé. Donc le pack monde sur Komoot, pour moi, il fait partie des choses qui sont rapidement indispensables, sauf si vous restez dans une ville, dans un parcours qui est toujours le même, etc. Mais dès que vous allez vouloir faire un peu de bikepacking, dès que vous allez vouloir sortir un petit peu, là-dessus, c'est mort. D'autant qu'en plus, vous pouvez même pas gruger en vous disant je fais la navigation, je prévois mon parcours sur Komoot, etc. Et puis ensuite, je l'envoie sur mon GPS. Chez moi, l'envoi de la carte sur le GPS passe par la condition, c'est d'avoir en fait acheté les cartes géographiques. Alors, je sais pas si c'est le cas sur tous les GPS, en tout cas avec mon Brighton, c'est le cas. Pour transférer en fait un parcours, par exemple, j'avais fait le test pour faire du Beaujolais à l'Auvergne en avec Komoot, pour le mettre sur le GPS, il m'a dit il faut acheter les cartes qui correspondent à toutes les zones géographiques traversées. Donc il y a même pas on peut même pas le gruger sur ce plan-là, ce qui est logique, hein. C'est-à-dire que Komoot est une entreprise qui est beaucoup plus petite que Apple et Google, etc. Donc il faut aussi qu'ils vivent, hein. Et puis il faut le dire aussi, hein, c'est qu'ils se basent pas sur les mêmes outils. Apple et Google ont leurs propres outils de cartographie, ils ont développé leur propre cartographie. Chez Komoot, ils prennent des autres systèmes de cartographie. Ils ont plein de fonctionnalités annexes, etc. En fait, on n'est pas sur le même type de service. Et c'est là pour le choix final que je dirais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, Komoot correspond plus à une planification réfléchie, les étapes, les points à voir, ceux qui sont signalés par la communauté, on peut voir les photos, on peut voir les points qui sont intéressants, etc. C'est plus pour moi une planification un peu type voyage ou une vraie carte telle qu'on voudrait faire avec un parcours tel qu'on voudrait le prévoir. À côté de ça, je trouve que Maps et Plan sont pour moi très pratiques en guidage ponctuel, c'est-à-dire je partir à l'improviste, ou alors je modifie mon parcours, alors je suis un peu perdu, ou alors tiens, j'ai fait une pause à un endroit, ou tiens, je me dis, bah tiens, il y a un village qui a l'air sympa là-bas, parce que je vois, c'est marqué château, ou je sais pas quoi, je vais aller voir ça. Et je trouve que là, c'est vraiment super pratique, que ce soit le Google ou Apple, leurs applications sont super pratiques, parce que ça permet, bah à tout moment, on peut sortir de son truc, en fait, on peut dire, bah tiens, guide-moi jusque là-bas, et puis quand je suis à ce point-là, on peut lui demander de refaire la cartographie au vol, vraiment au vol, beaucoup plus facilement. On peut le faire sur Komoot aussi, bien sûr, on peut le faire sur Komoot, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je trouve que juste sur l'ergonomie, les applications Apple et Google sont plus rapides, sont plus faciles, on visualise mieux, etc. Et puis, il y a ces fameuses variations de parcours qui sont pour moi vraiment plus sympathiques. En conclusion de tout ça, bien sûr, il y a d'autres outils. Il y a vraiment d'autres outils. On m'a parlé de certains autres outils, notamment planification, OpenRunner. Je pourrais parler de Strava, qui permet la planification et le guidage sur abonnement, 59,99€ par an, ou 9,99 par mois quand vous passez en premium, etc. Moi, j'ai longtemps été premium, j'ai jamais utilisé le guidage de Strava et la cartographie. Donc le dessus, j'ai pas fait de retour, j'ai pas fait de test, etc. Mais on a à peu près les mêmes schémas avec les petits trucs de les profils, la pente, est-ce qu'il y a de la pente, etc. Ça ajoute quelques fonctionnalités aussi quand même chez Strava, c'est-à-dire que comme ils mesurent à peu près partout où tout le monde court, ils vont dire est-ce que c'est très fréquenté, est-ce que vous avez croisé beaucoup de monde, est-ce qu'il y a beaucoup de passages, est-ce que quels sont les segments, quelles sont les vitesses moyennes, etc. Ou est-ce que ça monte plus vite, est-ce que ça descend plus vite, etc. Tout un tas de choses comme ça. J'ai pas testé en live sur le guidage, donc je peux pas faire de retour. Voilà, donc partagez-moi vos outils. Moi, je le dis, hein, vraiment. Je pense, par exemple, que sur mon périple que je voudrais faire cet été, d'aller voir la mer ou l'océan, je ferai plutôt une planification globale sur Komoot, on va dire grosso modo sur Komoot. Et puis, plutôt après, une planification, quand il y en a besoin, sur Maps ou Plan. À voir, hein, vraiment. En tout cas, je l'imagine comme ça. J'ai testé une autre formule aussi. Ça, c'est la dernière option que j'avais testée. J'avais déjà testé, j'avais dit, pour revenir de Bourgogne, j'avais testé aussi ce truc-là. C'est de faire la cartographie, une cartographie un peu large au départ, d'avoir un peu les grandes destinations, les points de passage par lesquels je veux aller. Et puis, me fier aux panneaux qu'il y a sur la route, alors et au chemin à peu près par où ça passe. Alors, c'est pas inefficace, c'est juste que hier j'ai failli me faire avoir par ce truc là parce qu'à un endroit j'ai vu un passage, j'ai dit tiens, il y a une petite route et il y avait une montée qui était un peu raide, il y avait une petite route qui passait par la descente et j'ai dit tiens, si je prenais cette petite route, peut-être que je pourrais passer, en fait, contourner cette montagne là. Et j'ai quand même eu le nez creux de, c'est là où j'ai vérifié, j'ai sorti Google Maps et j'ai demandé à Google Maps et Google Maps a dit ne voulez pas passer par cette route là et tout, je dis bizarre. Et donc j'ai zoomé, en fait c'est que la route elle partait pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au début on a l'impression qu'elle contournait bien la petite montagne et après elle repartait dans un autre sens. Donc ce guidage un petit peu au doigt, c'est-à-dire dire je prends les grandes destinations, je prends les grands chemins tels que j'ai imaginé, tels que j'ai l'impression d'avoir, et je me place des destinations de point en point, fonctionne à peu près, mais selon s'il y a des routes, on a des panneaux, des choses comme ça marche bien. Mais après voilà, si vous voulez un guidage plus précis, si vous êtes un petit peu moins aventurier sur certains aspects, ou si vous avez un timing un peu serré, vous allez arriver pile à l'heure, si vous voulez être sûr d'arriver au bon endroit sans en rajouter un peu de kilométrage, c'est vrai que ces applications de guidage sont assez pratiques. Voilà, moi je vous ai donné mon choix, je vous ai fait ce comparatif, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions quand même sur ces outils-là. C'est vrai qu'au départ, moi, quand je me suis mis au vélo, je me suis dit, oh, tiens, je vois beaucoup de monde sur Komoot, je me crée un compte sur Komoot, je vais faire mes traces sur Komoot, je vais partager. Hier encore, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a envoyé des traces Komoot pour montrer par où il passait, etc. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a des endroits, voilà, je trouve qu'il y a des bizarreries. C'est vrai que c'est amusant, je trouve, de comparer, de voir un peu les parcours que les uns et les autres proposent, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des philosophies qui sont un tout petit peu différentes. Je sais que si je démarre une cartographie Google, il y a un moment donné, il va me faire prendre des petits chemins, il va me faire prendre des trucs qui sont peut-être un peu plus engagés par un moment, par endroit, parce que lui, il va faire prendre des raccourcis. Je sais que si je prends du Google Maps, du Apple Plan, je veux dire, il va me faire passer par peut-être des petites routes un peu plus longues, etc., un peu moins de chemin, mais un peu plus touristique, j'ai envie de dire entre guillemets, parce qu'il fait pas passer par les points touristiques. Et là, je pense que d'ailleurs, les offices de tourisme, les propriétaires de châteaux, de belles demeures et autres, mais même les villes, hein, en fait, pourraient un peu râler, en fait, hein, se dire, bah tiens, vous pourriez nous faire passer par là, ou en tout cas trouver une option. Bon, bah ça, c'est genre de truc où, chez Google, c'est un truc qu'ils vont faire payer par la pub, hein, tout simplement. Et c'est pareil, en fait, si j'ai mis Waze. Alors Waze en vélo, j'ai pas testé, je sais pas si ça marche d'ailleurs, mais c'est un peu pareil, hein, c'est un peu le système. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand le service est gratuit, bah, on va proposer des services payants à d'autres personnes. Et effectivement, moi je sais que dans mon ancienne carrière, c'est arrivé. On avait acheté de la pub sur des services type Waze et compagnie et tout, en disant, bah tiens, quand vous arrivez là, il y a un supermarché qui est à tel endroit, venez nous voir. Et dans ce cas-là, vous cliquez dessus et forcément, la carte s'adapte pour vous faire passer par le supermarché. De là à dire qu'après, les offices de tourisme vont dire, bah, tiens, vous pouvez visiter la cathédrale, etc. C'est autre chose. Mais après, effectivement, on trouve d'autres services, il y a d'autres applications, il y a d'autres applications qui proposent des cartes toutes faites avec des parcours, des schémas, des endroits pour dormir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites, hein. C'est vrai que on vit quand même dans un monde où, il faut le dire, ces outils numériques nous permettent de voyager, même, je le dis, parce que franchement, quand je suis parti, pour mon voyage en Bourgogne, j'avais regardé les plans, j'avais regardé Komoot, j'avais regardé plein de trucs, mais au final, je suis parti vraiment sans trop planifier le truc, en me disant je vais faire confiance à ces outils-là. Grosso modo, je leur ai fait confiance, ça m'a amené au bon point avec un chemin qui était. Il y a des moments où je me dis tiens, est-ce qu'il y a des variations, est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais passer différemment. On est quand même dans un monde où ces outils-là nous permettent de partir vraiment, j'ai envie de dire un peu la fleur au fusil. En disant bah tiens je peux aussi me laisser guider un peu en fonction de mon envie, en fonction de comment ma journée je me sens, comment la météo a l'air, est-ce que si je vois un village ou une ville qui a l'air sympathique je peux m'arrêter, s'il y a une terrasse qui me plaît je peux m'arrêter aussi différemment, je peux revoir les trucs, je peux changer un peu de plan, si il y a quelqu'un sur Instagram qui me dit je suis à tel endroit, je peux aussi faire varier les choses, etc. Donc je pense que là-dessus on est dans un univers quand même où la technologie nous permet de le faire. J'ai une pensée pour quelqu'un dans la famille qui, lui, ne voyageait qu'avec des cartes papier, qui se vantait d'être capable de tout lire sur carte papier, etc. Et puis, on a tous connu ça, parce que dans la voiture de mon père, il y avait toujours les grosses cartes, avec toutes les cartes, toutes les communes et tout. Donc, j'ai appris à lire des cartes, hein, dans ma jeunesse. J'ai utilisé une boussole, etc. Mais c'est vrai que ces outils-là nous facilitent tellement les choses, sont vraiment super pratiques, etc. Et je trouve en tout cas que qu'on prenne l'un ou l'autre dans les trois outils que je vous ai donnés, ou que partagez-moi aussi vos outils, dites-moi vous lesquels vous aimez bien. Dans tous les cas, on arrive à peu près à destination. Je le dis, hein, il peut y avoir 15 km d'écart, ce qui en vélo n'est pas négligeable, hein. Alors, à pied, ça sera encore pire. En voiture, des fois, il y a certains écarts qui sont totalement négligeables. Qu'on fasse 1 km de plus en voiture ou 1 km de moins, ça change pas grand-chose. En vélo, quand la variation est de 15 km, et qu'il y a de la pente en plus au milieu, ça change un petit peu les choses, mais quelque part, ça change pas grand chose non plus. Donc voilà, c'était mon petit bilan. Vous savez à peu près comment j'ai testé ça. Pour moi, c'était une belle expérience, hein. Maintenant, je sais j'ai découvert plein de nouveaux chemins. J'ai plein de nouvelles, il y a plein de villages dont j'avais déjà entendu parler, que maintenant je connais mieux, etc. J'ai trouvé ma voie, celle que je préfère un petit peu. En tout cas, le chemin que je trouve le plus agréable. Et vous savez pourquoi ? Parce que dessus, j'ai repéré où étaient les boulangeries. Mais ça, c'est totalement un autre sujet. En tout cas, j'ai repéré deux boulangeries. Une qui fait des bons cookies et puis l'autre qui fait des petits croissants au chocolat aux amandes. Je vous dis que ça. Mais là, c'est dommage. Hein, fait partie des choses où je pense qu'il faudrait pouvoir les indiquer. Alors, sur Komoot, notamment, je trouve qu'il manque. Mais sur les autres aussi. Mais on pourrait le dire sur Komoot, ça serait cool de dire, bah tiens, je vais indiquer mes points. Ici manger le flan, ici manger le chocolat, ici manger ça, ici manger ça, ici manger ça. Moi, je ferais bien des parcours comme ça. En tout cas, dites-moi vous, hein, si comment vous voyez les choses. Partagez-moi vos astuces, partagez-moi vos conseils. Vous pouvez me faire, par exemple, sur Spotify en mettant un commentaire directement sur l'épisode, Apple Podcast ou bien sûr sur Instagram. Vous venez discuter avec moi @BertrandSoulier. Et puis même sur Strava où il y a je l'utilise pour faire le bilan de mes sorties, vous voyez tous mes parcours, etc. Les dernières traces gravel sont pas très gravel par endroit, elles sont un peu plus route, mais en tout cas n'hésitez pas à venir en discuter et me partager vous aussi vos meilleures astuces. Je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Roulez bien, ciao ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.